Et maintenant, c'est l'heure de votre feuilleton hebdomadaire. Jour à neige, jour à peine. Feuilleton radiophonique écrit par Jean-Michel Asse, interprété en alternance et selon humeur par Didier Rexach et Jean-Michel Asse. Diffusé tous les vendredis de l'été à 21h sur Radio Bartas.
Comme on vient de le dire, quelque part au sud, en Gabali, tout baigne aux alentours de l'an 1000. Ce jour-là, j'ouvre la porte, la cour est blanche, il a neigé. Marguerite me l'avait dit en se glissant nue dans mon couchage, elle avait dit « jour à neige, jour à peine ». En parlant de peine, elle n'en eut pas beaucoup pour me mettre dans un état qu'une certaine morale réprouve. Ce qui devait arriver, arrive. On joue au papa et à la maman, et comme tout a une fin, elle se rhabille et s'éclipse. Elle doit aller au four, c'est jour de pain. Le pain, c'est son truc. Il y en a, c'est la couture, Marguerite, c'est le pain. Elle est la boulangère du château. Il fait encore noir et n'ayant rien à faire dans la nuit, je replonge. Quand j'émerge, un coq explique à son copain que c'est lui qui a la plus grosse. La porte ouverte, prenant la mesure de la situation, je fais demi-tour et m'emmaillote les pieds avec une vieille paille, parce que en sandales dans la neige, c'est pas mon truc. Je n'ai pas encore réussi à me payer des chaussures fermées. J'avais dit avant l'hiver est bientôt fini, et je suis toujours en sandales. Pour l'instant, on fait 100. À part ouvrir le poulailler le matin, je ne suis pas abstraint aux corvées du château. Le poulailler, c'est une nouvelle manie du connétable. On ferme les poules pour la nuit. En fait, elles ne sont pas plus d'une dizaine à fréquenter le poulailler. Les autres continuent à pondre et dormir où bon leur semble. Moi, je ne m'occupe que du poulailler. Les enfants ramassent les autres œufs dans les granges, écuries, etc. Après avoir libéré mes volailles, je ramène les œufs en cuisine. Je m'en prépare un à la coque, un bout de lard, un bout de pain, et la journée peut démarrer. On échange les nouvelles de la nuit avec le cuisinier et les marmitons. C'est anecdotique, mais j'habite le seul château de la région à avoir un vrai cuisinier qui sait faire plein de plats différents. Il travaillait chez un riche seigneur dans l'entourage d'un roi. Malheureusement, une histoire de coucherie l'a obligé à s'exiler. Comme il dit, « tous les cocus ne sont pas classieux ». Ne me demandez pas de quel seigneur il s'agit. Mon royaume s'étend à 3 jours de marche d'ici. De fil en aiguille, le cuisinier a posé ses plats et ses couteaux ici. Le niveau de la maison n'en a pas pâti. J'avoue que le terme château est un peu osé. Le choisal, c'est plutôt une grosse ferme montée d'un deuxième niveau, à laquelle on a rajouté une tour carrée de 2 étages qui fait donjon. Comme l'ensemble est construit sur une hauteur, il paraît plus grand qu'en réalité. Vous avez un bâtiment en pierre qui fait face à l'est où habitent sa seigneurie et les siens. Au sud, construction en bois, les écuries, les étables et le poulailler qui jouxtent le maréchal ferrant. Au nord, en partant du grand bâtiment, les magasins de nourriture, la porcherie, les granges à foin, le fenil, les divers magasins et les bains, plus d'autres cabanes qui ont poussé selon humeur. Tout ça, en torchis et briques, est construit à la va comme je te pousse avec ce que l'on trouve. L'ouest est clos par une palissade d'un côté et le four banal de l'autre. L'ensemble forme plus ou moins un rectangle avec un puits. Devant la palissade, une mare faisant fossé et quelques masures où habitent les charretiers et autres vachers. La cour est fermée quand il y a danger par un portail et défendue par une herse en pieux pointus. La herse est une idée stupide du mari de la baronne, seigneur des lieux, qui trouvait que ça faisait classe. Il va sans dire que cette herse n'a jamais fonctionné et que maintenant que depuis que le seigneur est mort, la herse devait être démontée. Ça nous fait quand même 5-6 ans. Malheureusement, 15 jours plus tôt, ce qui n'aurait jamais dû arriver arrive. La herse, allez savoir pourquoi, a fonctionné toute seule. L'inimaginable est arrivé. Elle s'est abattue sur le fils préféré de la reine. Il passait en dessous, décapité. Comme il continuait à marcher sans tête, certains l'ont fini à la fourche. Il faisait peur aux enfants. C'est le symptôme du canard. Sa lyre a été bousillée. Vous allez me dire, pourquoi se promenait-il avec une lyre ? J'explique. Henri le Bonnet, dit Riton, fils unique de la reine, taquinait la muse. Il voulait faire troubadour. Il était la risée de tout le château. Il ne montait pas, il ne se battait pas, il ne chassait pas. Son dada, si j'osais dire, c'était la danse. Sa mère, dans un excès de lucidité, avait dit un jour
« Ça a beau être le fruit de ma chair, je dois reconnaître qu'il est con comme un balai. »
Riton, ad patres, les moines se sont emparés de l'histoire. Ce serait la main de Dieu et le Riton aurait ramassé sa tête pour s'élever vers les cieux. Pour rester dans le concret, nous avons plusieurs versions de la mort de Riton. Les fées, seulement les fées. Lorsqu'il passait sous la herse du portail, celle-ci s'est décrochée, ce qui tient du miracle, vu qu'on n'avait jamais réussi à la faire fonctionner et qu'elle devait être démontée sous peu. Hasard, malchance, coup du destin, il l'a prise sur la tronche, quasiment décapitée sur le cou. Version populaire. Il ne serait pas mort sur le coup et aurait encore fait quelques pas avant de s'écrouler. Version populaire améliorée. Il aurait marché sans sa tête comme un canard et un paysan, témoin du drame pour abréger ses souffrances, l'a achevé d'un coup de fourche. Version chrétienne politiquement correcte. C'est la main de Dieu ! Version des druides qui résistent à l'Église. Au lieu de la faire bénir par les moines, ils auraient mis du gui que rien ne serait arrivé. Version de l'Église améliorée. Après avoir pris la herse sur le crâne, il aurait ramassé sa tête et serait monté directement, rejoindre son créateur. Comme vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Enfin, en attendant que le sol dégèle pour creuser une tombe, le pauvre repose dans la glacière au frais. Les moines, chaque jour, prie pour sauver son âme. Moi, je n'y étais pas, mais j'ai ma petite idée. Une main, oui, mais pas divine. La herse était graissée de frais. Par qui et pourquoi ? Personne ne sait. En cuisine, on penche plutôt pour une histoire de cul. Dans la région, chacun fait ce qu'il veut de ses fesses. On peut même dire qu'on ne dort pas souvent dans le même lit. Malheureusement, la nature humaine est ce qu'elle est. Certains s'attachent, et quand tu t'attaches, les ennuis commencent. Tout le monde était au courant que le Riton fréquentait assidûment la maison des moines. Depuis quelques jours, un moine prêcheur, venant d'on ne sait où, s'est arrêté chez ces messieurs. L'hospitalité est sacrée chez ces gens-là. La rumeur dit qu'il était d'une grande beauté. Personnellement, je ne l'ai aperçu qu'une fois de trois quarts, et il m'a fait mauvaise impression. De là à dire qu'il serait pour quelque chose dans la mort du Riton, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Mais, comme le disait un vieux druide, souvent la première impression est la bonne. Le prêcheur a repris la route dans la nuit suivant le drame. Quand le jour se lève, ça fait 5-6 heures qu'il marche, et comme on ne sait pas quelle direction il a prise, on en reste là. Les moines se réfugient derrière le secret de la confession. Ils laveront leur linge-châle en famille s'il y a quelque chose à laver. Je cause et mon petit déjeuner est avalé. Alors, direction les bains. Mais avant, laissez-moi finir la présentation du pays que j'habite. Après, je risque d'oublier. J'habite une châtellenie qui suit la grande rivière à l'est et s'arrête au piémont de montagne au nord. Le territoire est bordé d'un côté par une ancienne voie romaine et une autre la traverse. Nous avons quelques torrents et petites rues, des marais et des grandes forêts. Cette baronnerie, comme je l'ai déjà dit, comporte un château principal où j'habite, un petit château qui défend le guet. Résidence de Bertrand le Pleutre, une maison seigneurale aux confins du Nord, résidence des deux frères Gaston le Bègue et Raymond le Borgne. Quelques hameaux, des cahutes de paysans, des maisons de charbonniers, des moulins, quatre glacières, des mines de plomb argentifère, une espèce d'auberge sur la voie romaine et quelques ruines romaines. Ça, c'est pour la moitié nord. Vers le sud, on trouve des charbonniers qui fournissent les potiers du comté en bord de mer. Des résiniers qui travaillent avec les charpentiers de marine. Et sur la rivière en amont, un moulin à grains et en aval, un moulin à fouler le lin. Les territoires du sud sont exempts de châteaux ou autres représentations du pouvoir de la baronne. Le tout, propriété de la baronne Pénélope, reine Frédérune, qui a pris le titre à la mort de son époux. Elle passe un peu pour une farfelue dans la province de Gabalie. Arrêtons-nous un instant sur cette dame. Plutôt grande pour une femme, elle est confortable, comme on dit, et rousse comme une lionne. Elle sait lire mais pas écrire. La voix est étrange, plus faite pour chanter que pour commander. Mais on s'habitue vite. Elle n'a pas repris de mari depuis que le baron est parti rejoindre le seigneur. Comme elle dit, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Elle est très respectée dans sa baronnie. À son actif, à la mort de son baron de mari, elle lève le servage sur ses gens et donne une manse à chaque famille. Rassurez-vous, ce n'est pas que par charité chrétienne, non. Elle a calculé qu'il était plus rentable que les gens travaillent pour eux et donnent un petit peu au château que de les presser comme des citrons en ne leur laissant que les miettes. Tu travailles toujours mieux quand c'est pour ta pomme. En dehors de ça, elle fait fouetter et pendre les gens, comme tout bon seigneur, quand le besoin s'en fait sentir. Pour finir sur une note d'espoir, elle montre une certaine réticence, pour ne pas dire une résistance certaine à l'avancée de la chrétienté. Elle ne peut pas expliquer pourquoi, elle n'a pas d'atome crochu avec les moines, mais comme elle dit, je sens l'emmerde. Ce qui ne l'empêche pas d'accueillir une petite communauté de frères dans une masure en dehors du château. Dans un souci de modernité, prenant exemple sur des endroits plus civilisés, elle a institué des bains publics gratuits et quasiment obligatoires pour le personnel du château. En échange de la gratuité, chacun amène un gros fagot pour chauffer l'eau. Puisqu'on en parle et que l'on est jeudi, c'est jour de mon bain. Comme je traverse la cour, il se remet à neiger. Depuis que l'eau chauffe dans les chaudrons, elle doit être à la bonne température. Les moines sont depuis la nuit noire à entretenir les foyers. Quand tu pénètres dans la maison des bains, tu changes d'univers. Première petite pièce, tu te déshabilles et tu entres à poil dans la salle d'eau. Deux grands cuviers en douelle de châtaignier trônent sur une petite estrade qui les isole du sol. L'atmosphère est saturée d'humidité et quelques torches donnent au décor un côté fantasmagorique. Je perçois deux donzelles mamelues à souhait qui s'ébattent dans le premier bain. Elle propose de me faire une petite place. Je décline poliment et saute dans l'autre cuvier. La température de la pièce, bien qu'au-dessus de celle de l'extérieur, n'incite pas à se trimballer trop longtemps les fesses à l'air. L'eau est encore propre. Je dois être dans les premiers baigneurs. Si tu passes après une vingtaine de clients, c'est toujours de l'eau, mais elle a changé de couleur. Je me laisse gagner par une légère torpeur. Il faut dire que les moines mettent de l'eau froide sur des pierres brûlantes, ce qui fait étuve et incite à la somnolence. Mon esprit vagabonde. Je pense aux grandes manœuvres qui auront lieu ce samedi. C'est une espèce d'entraînement à la défense du château. On n'a pas eu souvent à le défendre. Aussi loin que je me souvienne, nous avons été attaqués qu'une seule fois. Attaqués sérieusement, je veux dire. C'était pile pendant les foins. On a beaucoup de champs, ils ne sont pas bien grands et disséminés dans les grandes clairières. Donc, pour les récoltes, tous les hommes des villages s'y attellent. Le château envoie en renfort des hommes, femmes et enfants, plus les charretiers. En une grosse semaine, les greniers à grains, fenil et autres doivent être pleins. Pile au milieu des fenaisons, une troupe barbare arrive en vue du château. L'alerte est donnée. Les hommes restés au château se mettent en branle. Un des méchants avance vers nous et intime l'ordre d'ouvrir les portes. Sinon, assaut sera donné. En temps normal, nous aurions été beaucoup plus nombreux qu'eux, mais là, nous manquons de bras. Comme ils ne savent pas combien nous sommes, on les envoie se faire voir chez Plumeau. Histoire de gagner du temps, le connétable essaye de gérer la situation comme il peut. À l'impossible, nul n'est tenu. Je me retrouve chef d'une escouade de 5 gaillards plus un moine. On se positionne sur le toit des bains pour protéger le flanc gauche du portail. On a construit une espèce de chemin de ronde en bois sur les toits des bâtiments. Il fallait bien que ça serve un jour ou l'autre. J'évalue la situation comme j'ai vu faire les chefs. Les assaillants sont une vingtaine, sur chevaux et mulets. Si je compte bien, il y a 4 arcs. Le reste, c'est épieux, fléau, masse, hache et épée. Un des malfaisants lance son cheval en hurlant, freine à quelques pas et avec la main nous fait comprendre qu'ils vont tous nous couper le cou. La cloche pour l'alerte continue à sonner. Mais le temps que nos joyeux moissonneurs accourent pour prendre à revers l'ennemi selon le plan de bataille établi à l'avance, on risque d'être en mauvaise posture. Leurs troupes se séparent et ils tournent autour du château, cherchant le point faible dans nos défenses. C'est en tout cas ce que je me dis en tant que chef. On est renseigné sur leurs mouvements à l'arrière de la maison par le guetteur sur la tour. Il nous fait comprendre qu'ils vont passer devant nous. Je fais charger nos 3 arbalètes. Soudain, ils sont à 20 mètres de nous. Ils traversent le potager en piétinant allègrement les légumes. Grossière erreur, manque de politesse. Ou alors, ils n'aiment pas les légumes. Je ne saurai jamais. Mais la réaction ne se fait pas attendre. Le moine qui chargeait une arbalète pète les plombs. « Dieu, mes témoins, ils saccagent mon jardin !» Il se dresse et tire au hasard. C'était son jour. Le seigneur est avec lui. Un des cavaliers prend le carreau dans le dos et tombe de son cheval. Un portier en s'ouvre. 2 moines sortent avec des bâtons et faisant attention à ne pas écraser d'autres légumes, le bastonne à mort. 2 barbares font demi-tour pour secourir l'homme à terre. On lâche nos 2 autres carreaux qui ne touchent personne mais suffisent à faire reculer les cavaliers. Dans la cour, le maréchal Ferrand, pris d'une inspiration quasi divine, hurle. « Tous en selle, ouvrez le portail !» Il fait signe aux gens du portail de commencer à l'ouvrir. Les barbares tirent quelques flashs enflammés qui n'atteignent rien de grave, tournent bride et, croyant à une sortie de notre cavalerie, décampent vers le sud au moment où les moissonneurs sortent du bois en hurlant. Il est évident que cette victoire reste un des plus grands faits d'armes du château. On attend, on se regroupe, on se félicite. La reine apparaît sur le perron avec un aume sur la tête, une hache à la main.
« Je suis en retard, je ne retrouvais pas mon aume. »
Avec elle, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. En tant que chef suprême, elle ordonne que l'on mette un tonneau en Perse pour fêter dignement cette victoire. Les moines dépouillent le cadavre et disent une prière pour sauver son âme. J'essaye les bottes du mort. Trop petite, pas de chance. La reine me propose le cheval de la victime pour l'action de mon escouade. Je dis que j'y suis pour rien. On me dit que si, je redis que non. Et pile, il se met à pleuvoir. L'orage éclate et je me réveille, me noyant. J'ai glissé dans le bain et bois la tasse. En vrai. Une des petites qui sont là pour nous frotter la couenne est entrée dans ma cuve et propose ses services. Avec ces filles, on ne sait jamais où commence le service et où il finit. J'hésite. Elle a de petits seins et des taches de rousseur. Je n'ai jamais pu résister aux taches de rousseur. Mais allez savoir pourquoi, je sens l'emmerde si je cédais. Devant mon refus, elle demande si ma fiancée est jalouse. Cela finit à me convaincre de rester sage. Je remercie poliment en lui pinçant un téton et sors m'enveloppant avec un grand drap. Je me mets devant le foyer. Ma fiancée jalouse ? Elle a vu ça où ? Déjà faudrait-il que j'aie une fiancée. Pour être honnête, l'autre jour, j'ai quand même frisé l'incident diplomatique. Une petite bergère, accueillante, s'occupait de moi en tout bien tout honneur, dans les ateliers entre les harnais. C'est une de ces filles que l'odeur des cuirs énerve. Je peux le comprendre. Et franchement, je n'avais pas à m'en plaindre. Soudain, la porte vole en éclats, une furie s'abat sur la petite, la traîne dehors par les cheveux et la jette dans la boue, les nichons à l'air. C'était Marguerite, jalouse comme une lionne. S'emparant d'un coutelas à cuir, elle me chope par les couilles et me dit « Je te laisse le choix, je te les coupe ou je finis ce que cette salope a commencé. » Pour être honnête, elle ne m'a pas laissé le choix. Pendant que je me sèche et comme rien ne presse et que personne ne m'attend, je m'en vais vous narrer les suites de l'attaque des barbares. Notre bien-aimée reine profite de notre victoire sur les mécréants pour faire visite nocturne aux écuries. Sans aller jusqu'à dire que la baronne est portée sur la chose, il faut admettre que c'est une chaudasse qui ne donne pas sa part au chat quand l'occasion se présente. Un de ses péchés mignons est d'organiser une descente aux écuries avec sa maisonnée, fille et garçon. Quand tu sais que la plupart des hommes d'armes et les garçons d'écurie dorment dans la paille, on comprend facilement que ce n'est pas tellement les chevaux qui intéressent ces gens. Notre souveraine se sert de ses sorties nocturnes pour faire du social, m'a-t-elle expliqué un jour. Elle dit « ça rapproche les gens et ça crée de la chaleur humaine ». Question chaleur humaine, elle n'a pas tort. Et puis, comme on dit dans la contrée, chacun fait ce qu'il veut de son cul.
Vous venez d'écouter « Jour à neige, jour à peine » sur Radio Bartas.